Puis avant d'aller dans l'Écriture ce matin, dans la prédication, je vous invite à vous lever avec moi, on va prier le Seigneur et remettre ces besoins-là entre les mains, justement, de notre Créateur. Prions ensemble. Père Céleste, on vient devant toi, soucieux, Seigneur, que dans ce temps de célébration pour plusieurs, d'autres auront le cœur lourd comme les Grégoire, et pour toutes sortes de raisons, que ce soit le deuil, Seigneur, que ce soit des inquiétudes, des soucis familiaux qui vont être grattés, qui vont être ramenés, de la solitude pour toutes sortes de raisons variées, isolées par l'immigration, d'être loin de la famille, d'être célibataire, des familles dysfonctionnelles. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui souffrent en ce temps-ci de l'année, qui ont toutes sortes de préoccupations, pour nos missionnaires qui sont loin de leur famille, pour ceux qui, comme les Grégoire, ont des gros points d'interrogation sur leur ministère. Rencontre-les, Seigneur. Soutiens-les. Protège-les. Montre-leur, Seigneur, la direction, le chemin que tu veux qu'ils suivent. Éclaire, Seigneur, les ténèbres autour de eux. Donne une parole d'encouragement aujourd'hui alors qu'on prie pour eux. Seigneur, nous voulons te faire confiance avec ces besoins. Rends nos cœurs sensibles à ceux autour de nous qui souffrent. Qu'on ne soit pas juste dans la fête, en train de profiter, mais d'avoir aussi les yeux et le cœur sensible autour de nous à regarder. Et voir qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, dans la prière et dans l'action, pour prendre soin aussi autour de nous. Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Et nous te prions également ce matin pour les offrandes qui ont été amassées, qui ont été données, Seigneur, pour ta gloire. Ton peuple te donne des dons parce qu'il t'aime. Ton peuple t'adore, te dit, Seigneur, on te remercie pour le travail, la santé, les sous qui permettent qu'on vive dans une grande abondance en Amérique du Nord. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Et nous te disons merci. Merci du privilège de comprendre qui tu es, Seigneur, de pouvoir t'adorer, te donner une partie de ce que tu nous donnes. Accorde-nous joie à donner. Accorde-nous générosité à donner. Accorde-nous, Seigneur, de la liberté de donner, de prendre soin autour de nous. Bénis ce temps dans ta parole, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. On va mettre le diaporama. Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Et avant d'aller dans le texte principal, le psaume 32, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer pourquoi on s'en va dans le psaume 32, puisque certains vont me dire, « Mais Joël, mais que fais-tu? Mais que fais-tu dans les psaumes? Nous devons aller dans l'histoire de la nativité, n'est-ce pas? C'est la logique! » Soyez réconfortés, tout ça est lié ensemble. Et aussi, je vous rappelle que à nos émissions de radio, les dimanches matins et les mardis soirs, tous les jours de ce mois-ci, on regarde justement l'histoire de la nativité, où ce qu'on regarde le texte de Matthieu et qu'est-ce que Marie et Joseph ont vécu, les interrogations, les révélations de Dieu et le message de la nativité. Tous les dimanches, pendant les 4 semaines de décembre, des enseignements qui ont été préparés à la radio en complicité justement avec Tony, c'est là. Et ce matin, ce que je fais en regardant le psaume 32 est tout à fait en lien avec la nativité. Pourquoi? Bien, j'aimerais vous rappeler quelques textes brièvement de la nativité qui sont clés pour nous expliquer pourquoi nous devons parler de pardon ce matin. Je vous rappelle ces textes importants. L'ange dit à Joseph ceci. On est au premier chapitre du Nouveau Testament, dans cette première histoire que Matthieu juge bon pour nous de lire dans l'Évangile de Matthieu. Il dit, lui, en effet, en parlant du nom de Jésus qui est Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, en effet, sauvera son peuple de leurs péchés. Dans la première révélation du Nouveau Testament, le premier ange qui parle, la première information qui nous vient de Dieu, on apprend que Jésus sera le nom du Messie. Et la raison, c'est parce qu'il vient pour sauver des péchés. Le premier chapitre du Nouveau Testament nous parle de péché. Le premier chapitre du Nouveau Testament nous parle de notre besoin d'être pardonné et que c'est pour ça que Jésus vient. On oublie ça. On l'oublie souvent. La venue de Jésus est pour régler un problème immense. Et c'est pas juste répété dans Matthieu. Regardez bien dans Luc ce qu'on dit à Zacharie, avant même qu'on annonce la naissance de Jésus, c'est la naissance du fils de Zacharie, Jean-Baptiste, qui est annoncé à Zacharie. Et Zacharie, après avoir reçu la révélation, va chanter après la naissance de son fils. Et voici ce qu'il dit, « Pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés, par le pardon, par le fait que nos fautes, par celui que Jean-Baptiste va nous annoncer qu'il est possible pour nous d'avoir notre dette de péché, d'être remise, d'être éliminée. » Premier chapitre de Matthieu, premier chapitre de Luc qui nous parle de la nativité, nous parle du besoin d'être pardonné des péchés. C'est directement lié au message de Noël. Non seulement ça, mais Jésus porte un nom qui nous est rappelé deux fois dans Luc, celui de sauveur. Mais sauveur de quoi? Un sauveur vous est né, on nous dit, par les anges, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle qui est annoncée justement à ces pécheurs, ces bergers. Un sauveur nous est né. Mais sauveur de quoi? Sauveur de quoi? Sauveur de nos péchés. Sauveur des êtres humains perdus. La venue de Jésus comme sauveur est pour régler notre problème principal, celui d'être en tension avec Dieu comme pécheur, celui d'être éloigné de Dieu par notre nature pécheresse, par nos choix de rébellion continuelle dans toutes sortes de nuances de notre vie quotidienne. L'ange dit à Zacharie, pour ramener les cœurs, en parlant du ministère de son fils, des pères vers leurs enfants et de conduire les rebelles à penser comme les justes afin de former pour le Seigneur un peuple préparé pour rencontrer Jésus. Les relations brisées, réglées entre père et fils, entre mère et fille, etc. Regardez encore cette nuance. Il y a d'autres textes que je pourrais nommer, mais la venue de Jésus, la venue de Jean-Baptiste pour annoncer la venue de Jésus et la venue de Jésus pour ultimement finir à la Pâque comme sacrifice pour nos péchés est un message qui commence à la nativité, dans les premières révélations de la naissance de Jésus. Et d'où ce matin, pourquoi j'aimerais vous parler de pardon et de terminer la série qu'on a commencée dans les psaumes, sagesse dans les psaumes, par ce psaume 32, psaume qui manifeste et qui communique la joie d'être pardonné. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, allez avec moi dans le psaume 32 qu'on va regarder ce matin ensemble. Et j'aimerais commencer par vous lire ces quelques premiers versets du psaume 32. Vous y êtes? Ceux à la maison, vous êtes prêts? Oui, ils sont prêts. Verset 1. De David, cantique, ou on pourrait traduire tout simplement instruction. Heureux celui dont les transgressions est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse ou la corruption. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourd sur moi. Et le mot ici, peser lourd, c'est le mot duquel on aurait le mot gloire. La gloire de Dieu, le poids qu'il mettait sur moi, c'était pesant. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Pause. Un moment de réflexion en regardant Dieu. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai. Je vais faire connaître mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. Pause. Encore un moment de réflexion. C'est ainsi que toute fidèle peut te prier. Au moment convenable, si de grands eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Encore une fois, une pause, un moment de réflexion. Verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. j'aurai de l'égard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet, comme un âne, sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne bousculent pas, qu'ils ne tombent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la joie, dans l'allégresse. Faites le party. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Pourquoi le cœur droit? Parce qu'ils ont été pardonnés. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut vous dire ce matin, mais le Seigneur veut vous parler ce matin. Le Seigneur ne permet jamais qu'on se réunisse ensemble, les chrétiens, qu'on lise la parole pour faire un acte religieux, pour encore une fois lire une parole de Dieu pour rien. Le Seigneur veut toujours nous parler. Et j'espère ce matin, vous arrivez ici ce matin, pas juste pour la célébration de Noël. Ah, ben là, c'est un dimanche important, faut être là pour entendre des chants de Noël, avoir la conscience claire que vous avez entendu quelques versets de la Nativité avant le temps des fêtes ou le temps de Noël. Mais que ce matin, vous êtes venu passer du temps avec Dieu, avec les frères et sœurs qui partagent la foi en Jésus, avec ceux pour qui Noël est important, et que vous attendez que Dieu vous parle ce matin. Ce psaume touche un sujet essentiel pour nous, qu'on a besoin de revoir régulièrement. Et c'est pas pour rien que les Écritures nous parlent de pardon, de confession, continuellement, à travers les Écritures, autant l'Ancien que le Nouveau Testament. Il y a 7 psaumes qui sont consacrés justement à des psaumes de repentance, des psaumes de pénitence, des psaumes où je reviens à Dieu en confessant mes péchés. Et celui-ci est le deuxième, il y a le psaume 6, le psaume 38, un merveilleux psaume que j'ai prêché à plusieurs occasions de baptême. Le psaume 51, le plus populaire, que la plupart connaissaient, de confession des péchés de David. Psaume 102, 130 et 143. Périodiquement, à travers presque tous les 5 livres des psaumes, il y a un psaume qui nous invite dans toutes ces prières variées, de louanges, des prières d'instruction, des prières d'expérience du passé, des prières d'imprécation. Il y a des prières de repentance, des prières de pénitence. Je regrette, Seigneur, je reviens vers toi. Ça fait partie de cet équilibre de plusieurs types de psaumes qui expriment nos sentiments humains, qui expriment ces émotions qu'on vit et qu'on doit parler avec Dieu et qui nous donnent des idées de comment parler à Dieu, comment on peut s'exprimer dans ces moments où on s'est éloigné de Dieu et qu'on est invité à revenir. Et on le fait pas juste une fois au moment de la conversion, c'est quelque chose que malheureusement, sur cette terre de pécheurs, où ce qu'on est pris avec notre nature pécheresse, même après la conversion, c'est une expérience qu'on doit faire régulièrement, de régler nos comptes avec Dieu. Tout comme dans une relation de couple, où ce que malgré qu'on a dit « je t'aime », publiquement, devant témoins, pour la vie, on va faire quelque chose de mal contre l'autre un jour ou l'autre et on a besoin de dire, je te demande pardon. J'ai manqué à ma promesse. Ou, les paroles ont dépassé les bornes. Ou, peu importe. Pourquoi? Pour entretenir la relation. Parce que j'ai dit initialement que je t'aime. Et quand on dit je t'aime, ben, il faut entretenir cette relation-là. Et quand on a dit je t'aime à Dieu, qu'on a reçu son pardon, qu'on a reconnu le besoin de lui et qu'on est en relation avec lui, on a besoin aussi de revenir à lui régulièrement pour garder notre communion. Et donc, ces psaumes montrent cet équilibre qu'on a dans la vie d'avoir besoin de revenir à Dieu. Le contexte est assez simple et pas très débattu, tout comme le psaume 51. Mais David s'est confessé dans le psaume 51 lorsqu'il a péché, dans cette fameuse histoire que vous connaissez bien. Si je vous dis le nom David, et je vous dis, c'est quoi la première histoire, ou les deux premières histoires qui vous viennent sur David? Ça serait quoi? Mot-clé. Comment? Goliath? Bathsheba. Ah, c'est un peu bipolaire, ça, hein? Goliath, ce plus haut moment de son histoire, dans sa jeunesse, où il bat ce géant-là, et pourtant, tout de suite, en même temps, il y a un autre nom qui nous vient, c'est Bathsheba. Oh, ça, c'est moins drôle. Ça, l'histoire où ce que finalement, il a tué quelqu'un pour avoir sa femme, puis il a mis une femme enceinte dans une situation d'adultère, et ça a amené plein de problèmes dans sa maison. Parce qu'évidemment, quand tu tues un homme pour avoir une femme, puis quand tu as finalement cette femme-là et que tu as triché, ça amène généralement des problèmes conjugaux et des problèmes avec les enfants aussi. Ça ne peut pas faire autrement. C'est drôle là, comment que notre mémoire nous rappelle aussi les mauvaises choses. Ça nous dit quelque chose lorsqu'on pense à David comme ça. Ça nous dit aussi que c'est difficile pour nous d'oublier les grosses erreurs. Hein? C'est pour ça qu'on aimerait avoir le pardon. On ne veut pas être associé avec la pire bêtise qu'on a faite dans notre vie. Et pourtant, l'être humain est ainsi. On associe souvent les gens avec leur plus grosse victoire, mais aussi avec leur pire bêtise. Et pourtant, vous savez quoi? Quand David est arrivé au ciel, Dieu lui a jamais parlé de sa bêtise. Parce que Jésus est mort pour sa bêtise. Il n'y a jamais remis dans la face parce qu'il a vécu cette expérience de « heureux celui à qui les péchés sont pardonnés ». David l'avait vécu déjà par la foi dans le futur Messie qui descendrait de lui. Et jamais sa faute, lui, a été rappelée dans les cieux. Mais sur terre, on fait ça. On se rappelle des fautes. Et c'est pour ça qu'on a un craving, on a un désir, une aspiration d'être pardonné, qu'on nous ramène pas nos fautes d'en face. Après qu'on les ait confessés sincèrement, et pourtant, c'est humain, on nous rappelle nos fautes. Nos pardons sont souvent bien élastiques. Ils reviennent. Juste au moment qu'on voudrait pas, qu'on n'aime pas. Mais Dieu, lorsqu'on a été pardonné, ne fait pas cela. Amen. Et David n'a pas expérimenté ça. Et pourtant, Dieu permet qu'on nous rappelle l'histoire de David encore 2000 ans après Jésus-Christ, pas pour nous rappeler sa faute, pour nous tourner le fer dans la plaie, mais parce qu'on est encore en train de vivre là-dedans et on a besoin de se rappeler pour en tirer des bonnes leçons et recycler l'erreur de David en apprenant de ses erreurs nous-mêmes. Rappelez-vous, David a couché avec une femme pendant que cet homme-là était avec son armée, et lui n'était pas là, en train d'attaquer le peuple des Ammonites. Ah, pas très loin, il était à 30, 40 kilomètres tout au plus. Et il couche avec cette femme-là, au lieu d'être lui-même en train d'être au combat, en train de leader son armée, dans un moment d'oisivité. Et finalement, pour couvrir son erreur, parce qu'elle tombe enceinte, bien, il fait venir Uri, un homme d'une piété extraordinaire, un homme humble, un homme qui aime Dieu, un homme qui fait paraître David le roi comme une espèce d'homme païen, inculte, pas d'allure, alors qu'il est le roi qui a écrit tous ces psaumes-là. Au niveau moral, Uri, dans son comportement, fait la barbe, en bon québécois, à David. C'est ironique. Et il ne réussit pas à amener cet homme-là, même dans son ivresse, à aller coucher avec sa femme, de pouvoir couvrir son péché, et peut-être que ce fils-là paraîtrait comme le fils de Uri. Et finalement, il envoie une lettre à son général pour se débarrasser de lui en lui disant, écoute, quand tu vas attaquer la ville la prochaine fois, mets-les dans le front, dans la première ligne, puis retire-toi une fois que les flèches vont s'en venir, puis tu vas pouvoir passer ça comme un accident. Et là, évidemment, Joab, ce gars brillant, il a compris c'était quoi qui se passait. Et il a couvert son roi. Il est devenu complice de meurtre. Et cet homme-là, meurtrier, va aussi être lui-même tué et assassiné un jour pour son éthique de travail. Et David ne confesse pas sa faute. Il va se passer un an. Et finalement, c'est Nathan qui doit venir l'exhorter, le reprendre par une histoire, par une parabole, qu'il se condamne lui-même dans sa réaction. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, parce qu'il y avait une histoire qui était racontée, si vous vous rappelez, d'un homme qui était riche et d'un homme qui était pauvre, qui avait une bête, et l'homme riche reçoit un invité, et au lieu de tuer une de ses bêtes, lui qui est riche, il va tuer, pour recevoir son invité, la bête de cet homme pauvre-là. Et là, David, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est de l'abus de pouvoir, c'est mal ce qu'il fait là, il va devoir en donner 4! Il réalise pas qu'il est en train de prononcer un jugement contre lui-même. Comment qu'on est dur avec les autres, hein? Et qu'on est doux avec nous-mêmes. Encore une fois, une révélation de notre cœur, hein, n'est-ce pas? Et Dieu permet qu'il prononce sa propre condamnation. Et qu'est-ce qui va arriver? Pour le meurtre qu'il a commis, 4 vont mourir dans sa famille. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. L'enfant qu'elle a porté va mourir. Puis, va mourir son aîné, Amon, dans une histoire avec Absalom. Il va être tué par un autre frère. Et finalement, il y a un autre fils qui va mourir éventuellement aussi, tué par Salomon, parce qu'il va essayer de prendre la place de Salomon. Et finalement, Absalom, le fils qui se rebelle contre son père, qui va essayer de prendre sa place. 4 enfants sont morts, plus un viol dans la famille qui a amené ces conflits-là. On peut dire que dans la famille de David, c'était le bordel, en bon québécois. Prenez-le comme vous voulez. C'était pas beau. Et c'est venu comme conséquence de cette histoire-là. Pour voir que des fois, on fait un geste et on réalise pas comment loin et comment graves les conséquences vont être sur notre famille. Lorsqu'on est père, lorsqu'on est mère, nos choix vont affecter nos enfants. Et beaucoup plus qu'on peut le penser souvent. Gare à nous que le Seigneur nous protège de nous-mêmes et nous garde humbles pour apprendre des erreurs des autres. Et éviter ces erreurs dont les Écritures nous instruisent, nous apprennent. Et c'est pour ça aussi que le psaume, c'est pas juste un psaume de pénitence. Il y a cette expression au début, instruction. J'aime pas la traduction dans nos versions. Plusieurs mettent cantique ou poème, et ça manque de justesse. C'est un terme technique très difficile, mais la racine, à la base de ce mot-là, c'est le verbe instruire qui est utilisé au verset 8. Et la meilleure traduction que je pourrais faire littéralement, c'est vraiment instruction. Comme un père à son fils. Comme dans les proverbes, c'est la même racine qui est utilisée couramment là. Et donc, c'est pas juste ici la joie d'être pardonné, mais c'est la joie d'un cœur, avoir un cœur enseignable qui reçoit cette instruction-là pour apprendre de ça. D'où le nom de la série que j'ai choisie dans les psaumes, la sagesse dans les psaumes. Tellement de choses à apprendre sur Dieu, sur notre vie de tous les jours dans les psaumes. Et donc, c'est quelques mots d'introduction pour comprendre le psaume qu'on regarde aujourd'hui, si important et qui devrait être cher à nos cœurs. Et les 2 premiers versets sont la déclaration. Et j'ai fait un petit plan simple pour nous ce matin, la joie du pardon. Premièrement, le pardon expérimenté par David. Et il y a comme 3 petits couplets dans la première partie, et puis deuxième partie, un autre 3 petits couplets, bien simples. Donc, le pardon expérimenté par David, en rétrospective, contrairement au psaume 51, qui semble être le psaume comme au moment où ça s'est passé, sa confession, celui-ci, c'est comme s'il est écrit quelques années plus tard. Après avoir expérimenté ça, dans un état de reconnaissance sur le pardon, il a le besoin, dirigé par l'Esprit-Saint, d'écrire ce psaume sur l'expérience qu'il a vécue et comment il a été libéré et comment il nous le recommande dans les derniers versets du psaume. 2 parties, verset 1 à 5, qui nous parle du pardon expérimenté par David, et les versets 6 à 11, le pardon recommandé par David. Son expérience, puis sa recommandation. Et la première chose qu'on nous dit, c'est le résultat de ce pardon. Ça lui a procuré de la joie. Du bien-être incroyable. Vous savez, le psaume 32 est le deuxième psaume qui commence avec cette expression « heureux ». C'est une béatitude, Jésus est celui qui l'utilise le plus dans le Nouveau Testament. Heureux celui qui ceci, dans les béatitudes du Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, etc. Un état de béatitude pour ceux qui vont faire ce qui suit. Et c'est le deuxième psaume qui commence de cette façon-là. Vous vous rappelez du premier psaume? Heureux l'homme, psaume 1, qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on pratique tout le psaume 1? Heureux l'homme qui marche, qui suit pas le conseil des méchants, qui suit pas le mauvais chemin et qui est attaché à la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Est-ce qu'on arrive à pratiquer ça totalement? Non. Force est de constater qu'on échoue au psaume 1. Dieu merci, il y a un psaume 32. Pour ceux qui ont échoué. Vous voyez? Comment il a écrit le psaume 1? Il savait très bien, là. L'homme béni de Dieu. Ouais, mais j'arrive pas à atteindre cette bénédiction-là. Finalement, j'écoute un mauvais conseil. Je me tiens avec du mauvais mot. Finalement, je trouve pas mon amour et mon bien-être à nourrir de la parole de Dieu comme je le devrais. Puis à cause de ça, ben là, mon comportement ne reflète pas. Puis là, finalement, je me trouve dans un échec du psaume 1. Le psaume 32 vient à notre secours et nous dit, oui, mais il y a un chemin. La confession des péchés. Le pardon de Dieu. Le Messie qui s'en vient régler tout ça qu'on a parlé déjà au psaume 2. C'est possible de régler tout cela. Il y a de l'espoir. Et dans ces deux premiers versets, remarquez bien ceci, le parallélisme. Les Hébreux écrivent la poésie pas comme nous autres, avec juste de l'assonance, des sons qui riment. Il y a de ça dedans aussi. Mais surtout, ils font des parallèles. Donc, ils disent une phrase, puis ils disent une deuxième phrase qui ressemble beaucoup avec des mots synonymes, des verbes synonymiques. Et donc, on a des phrases qui sont appelées du parallélisme. Et regardez bien votre verset devant vous. Regardez comment attentivement il écrit les deux premières lignes. Il va le décrire de trois différentes façons, cette expérience du pardon, positivement, puis négativement, au verset 2. Heureux celui, qui les transgressions. Après ça, on va parler de péché, des fautes. Trois différents mots sont utilisés pour parler du mal qu'on fait. Trois différents synonymes, mais qui sont pas juste des synonymes. C'est comme si ça donne le portrait total, le portrait accablant du mal dans notre vie. Et les verbes qui sont utilisés pour pardonner aussi font la même expérience. Couvrir, ne pas compter nos fautes, pardonner, sont différents verbes utilisés pour exprimer le pardon complet de Dieu, en positif et en négatif. Dieu qui nous pardonne, Dieu qui couvre nos fautes, mais Dieu aussi qui décide de ne pas compter dans son livre de bord la liste de nos fautes et de pas tout compter ça et mettre ça sur notre compte. Il le fait de manière variée et est en train de dresser un portrait de la totalité du mal dans notre vie, mais aussi de la totalité du pardon de Dieu pour cette totalité du mal. Vous me suivez? Un auteur a dit ceci, et je trouve ça intéressant. Vous ne comprenez, ça a été écrit il y a 70 ans par un prédicateur, un commentateur bien connu, M. McLean. Il dit, vous ne comprenez pas la gravité de la faute ou du péché, la plus insignifiante lorsque vous la considérez comme un péché contre l'ordre de la nature, ou contre la loi écrite sur notre cœur, ou comme une violation de la constitution de notre propre nature, ou comme un crime contre vos semblables. Vous n'avez pas compris le fond de l'affaire tant que vous n'avez pas vu qu'il s'agit d'une rébellion pure et simple contre Dieu lui-même, le Créateur du monde. Et donc, il décrit ici le péché comme j'ai manqué la marque, comme un crime, comme passer à côté de ce que j'aurais dû faire, comme quelque chose de la corruption. Il donne différents angles pour montrer comment le mal est partout présent. C'est la totalité dans nos vies et on est complètement dépravé comme être humain. Et désespérément en besoin de pardon. Et que la solution se trouve tout de suite là, dans ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce que lui peut faire? Bien, on nous dit ici qu'il peut enlever la faute, la faire disparaître, l'effacer. Donc, l'idée de pardon dans vos Bibles, qui est traduit dans certaines... Pour d'autres, couvrir une faute ou la cacher. Vous savez quand il dit, il éloigne nos transgressions autant de l'Est de l'Ouest, autant que les profondeurs de l'océan, que le ciel. Il est en train de dire, je l'éloigne tellement de toi que je l'efface, qu'elle ne peut pas revenir, contrairement à nos pardons élastiques. Dieu, ça n'arrive pas, ça. Donc, lui peut effacer, il peut couvrir, littéralement, ou encore, ne pas compter, ne pas mettre à notre compte. Et ça, c'est un terme comptable du Nouveau Testament. C'est littéralement le calculer. C'est j'ai été calculé dans mon compte de banque combien j'ai d'argent. C'est le même mot qu'on utiliserait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour parler d'un compte comme un bon comptable ferait. Un comptable, ça compte. Et Dieu devrait compter nos fautes. Dieu devrait mettre sur notre dossier à l'ARC. Combien travaille à l'ARC? Sinon, lèvez pas vos mains, là. Je vais pas vous mettre dans le trouble. À l'endroit où ce qui calcule nos impôts, qui calcule qu'est-ce qu'on a comme dû au gouvernement, et il calcule. 5 ans en arrière, plus cette année. Avec les intérêts. Puis là, s'il y a une petite erreur dans ton... c'est pas mon problème, c'est écrit ça, c'est à toi de rectifier. Puis t'es coupable jusqu'à la preuve que tu es innocenté. C'est pas comme notre système de justice tout à fait, hein? C'est tough. Et imaginez Dieu face à nos péchés, face à nos fautes. C'est comme s'il y a un état de compte. Il y a un dossier judiciaire, pénal, de nos fautes. Et là, ce qu'il dit, c'est que ce qui devrait se faire naturellement, que tous nos péchés soient comptés, comptabilisés, et qu'on reçoive le mérite de nos péchés, puisque les êtres humains sont beaucoup forts sur l'idée de la balance, hein? Nos fautes, nos bons coups, nos mauvais coups, puis là, on va peser ça. Ben, tu veux qu'on calcule? Tu veux vraiment qu'on calcule? Mais si tout est écrit dans les comptes de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme espoir? L'espoir, c'est au verset Dieu. Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas, n'impute pas ses fautes qu'il mérite, qu'il les efface. C'est le seul espoir qu'on peut avoir devant un problème judiciaire aussi important que les fautes accumulées devant Dieu, devant la gravité du péché humain. Il n'y a pas d'autre. Et c'est tellement important que si vous tournez avec moi dans Romains, chapitre 4, gardez votre doigt dans le psaume, allez dans Romains, chapitre 4, versets 7 et 8, où vous allez retrouver les mêmes versets. C'est les seuls versets du psaume 32 qui sont cités dans le Nouveau Testament. Romains, chapitre 4. Et si vous voulez apprécier vraiment la lecture, lisez le chapitre au complet. Vous allez voir que David ajoute à son argument pour dire que c'est possible pour l'être humain d'être pardonné, d'être lavé de ses péchés par la foi seulement en Dieu, en Jésus. Et dans son argumentaire pour dire que c'est la foi seulement qui sauve et rien d'autre, il va utiliser des paroles de l'expérience d'Abraham. On dit, Abraham, qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 15? Il a cru en Dieu et cela lui fut imputé, fut compté à justice à son compte. Et il va utiliser comme autre argument ce psaume-là, psaume 32, qui parle justement d'être pardonné par Dieu gracieusement, sans aucun mérite, par la foi seulement. Et il l'utilise dans son argumentaire, heureux l'homme, et il cite exactement ces versets-là. Paul, dans son argumentaire, considère que l'expérience de David ici, l'expérience de Abraham au chapitre 15 de Genèse, sont des expériences qui viennent confirmer ce que Paul est en train d'enseigner et que Jésus a enseigné, qu'il est possible pour nous d'être pardonnés de nos péchés, pas par une action religieuse, pas en suivant les lois de l'Ancien Testament, pas en étant fidèle à toutes les règles de la société, rien de tout ça, mais par la foi seulement et uniquement dans la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre faite à la croix. Amen. Et Paul bâtit son argumentaire, psaume 32. C'est-tu assez important à votre goût? Pour que Paul décide de citer ces deux versets-là. Du bien-être. D'être pardonné tout court, sans mérite de notre part, par pure grâce de Dieu. Voilà la seule espérance pour celui qui n'a pas réussi à faire le psaume 1 et qui finalement rentre dans la catégorie des méchants. On devient un méchant sans le pardon de Dieu. On est tous devenus méchants par nos péchés. Méchants étant non selon Dieu. Rebelles. Criminels de nos fautes. Impurs. Et regardez bien maintenant ce qu'il dit au verset 3 et 4. Il parle de sa résistance. Quand je résistais à Dieu, voici ce que je vivais. J'étais mal dans mon corps. Tout mon être au complet, physique et spirituel, était malheureux. La vie était lourde. J'avais des douleurs corporelles. Ça affectait jusque dans mes os. On voit les gens parfois qui, dans la culpabilité, se rendent malades, tombent en dépression, dans l'angoisse de leur péché, dans la honte, gardent des choses cachées qui les amènent à la mort, littéralement, favorisent la maladie, ne prendre soin de soi-même, favorisent la dépression et l'anxiété qui détruit l'âme et qui détruit le corps. Et là, il parle de comment quand il résistait, il était mal jusqu'aux os. Et ce n'est pas la seule fois où qu'on parle de ce mal d'être qui va jusque dans les os de l'être humain, dans les os humaines. Et c'est ce qu'il décrit dans les versets 3 et 4. Quand je faisais pas ça, j'étais malheureux. Jusque dans le plus profond de mon être. C'était pas superficiel. Tout était affecté dans ma vie. Fait que pendant cette année-là, il nous témoigne après coup que pendant cette année-là, où il couvrait ses fesses par un meurtre, qu'il disait rien, à l'intérieur, peut-être qu'il y avait de l'air à s'en tirer. mais il était pas bien. Vous savez, des fois, on regarde les gens, puis ah, il a de l'air à s'en tirer à faire le mal, lui. Tel leader mondial, tout a l'air à bien aller pour lui. Ça, c'est l'apparence humaine. C'est ce que nos yeux voient. Et nos yeux sont si limités. On ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Rappelez-vous l'histoire de Joseph, hein? Joseph, il avait de l'air à être celui qui avait payé pour ses frères. Puis on se dit, ah, ben, les frères ont de l'air à tout bien s'en tirer. Le Seigneur est bon. Il nous permet que dans l'histoire de Joseph, il y a un chapitre 38 qui nous raconte l'histoire de son frère qui a usé de leadership dans l'histoire pour se débarrasser de son frère. Et on voit son histoire au chapitre 38 de Genèse, comment Dieu, pendant 22 ans, que un est en prison, en train d'être éprouvé, puis qu'il a de l'air à avoir perdu, que celui qui avait de l'air à s'en tirer avec le mal qu'il a fait, Dieu était en train de le labourer. Et pas à peu près. Il vivait des souffrances, il vivait toutes sortes de choses. Dieu voulait l'amener à la repentance. Il vivait la lourdeur. Le chapitre, le verset 3 et 4, c'est ce qu'il vivait, Judas. Et ça a pris 22 ans pour être prêt à revoir son frère un jour et devant lui d'être repentant. Et sa repentance a été testée au moment où il a dit, « Non, non, à la place de Benjamin, prends-moi sa place. » Il a décidé d'être le substitut pour son frère. Et là, Joseph a vu, « Mon frère, il a changé. Mon frère a changé. » C'est plus le même gars qui a 22 ans, comme je suis plus le même gars non plus, dont l'épreuve m'a forgé. Dieu l'avait travaillé pendant ce temps-là. Mais toute sa souffrance, les deuils, les morts de ses enfants, la honte, les problèmes sexuels qu'il avait, et tout ça passait à l'apparence. Personne ne le savait, là, comment il utilisait sa carte de crédit, puis qu'il avait été voir sa belle-fille, Tamar. Il faut lire l'histoire pour comprendre l'histoire de la carte de crédit, mais vous comprendrez en lisant. C'est une longue histoire. C'est pas chic, c'est pas beau, c'est assez sale. La personne qui semble s'en tirer, semble s'en tirer. Rappelez-vous du mot « semble ». À l'apparence des yeux humains seulement. Mais Dieu laboure et travaille. Et il y a au verset 3 et 4 quelque chose qui nous dit, il y a de la pression, il y a de la lourdeur. Et Dieu n'oublie pas. Et il fait pas ça pour t'écraser, il fait ça pour te ramener à Dieu. Il te fait ça pour t'amener à la repentance. Parce qu'il faut du poids pour tomber à genoux pour l'être humain. Et c'est ce que David vivait. Et ça en a pris beaucoup. Est-ce que vous êtes présentement dans cette position-là difficile? Ou est-ce que vous avez le goût d'écraser sous le poids, la lourdeur de quelque chose qui est dans votre cœur? J'aimerais vous dire ce matin, il y a une bonne nouvelle, c'est Noël. Parce qu'à Noël, ça nous rappelle que Jésus est venu régler ce problème-là. La naissance du petit bébé inoffensif, du petit bébé vulnérable dans une crèche. Ben, il n'est pas resté un petit bébé, il est devenu un adulte. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris mes souffrances, tes souffrances, et il a tout réglé ça pour qu'il y ait une voie de sortie pour nous autres. C'est ça la bonne nouvelle. C'est inutile et stupide de continuer à résister. Un jour, Jay Adams, grand conseiller qui a écrit beaucoup de livres sur le counseling biblique, dans son livre « Competent to Counsel » que j'ai lu il y a une trentaine d'années, je me suis rappelé cette histoire d'un homme qui s'appelait Don, qui avait des gros problèmes d'insomnie. Et rien ne marchait, et des doses de pilules pour le faire dormir, il commençait à devenir dangereux, en fait, la grosseur des doses. Et finalement, son conseiller découvrit qu'il trichait sur ses impôts. Il avait peur que les affaires internes de services de revenus, de recouvrement, et qu'il soit reconnu comme un voleur. Et il était hanté par ces tricheries qui, au début, semblaient alléchantes. Et finalement, était devenu un cas de conscience terrible et il ne dormait plus. Sa conscience, le soir, ne le laissait pas dormir. Finalement, il avoua et proposa une manière de faire restauration, donc pour réparer son erreur, de la payer. Et aussitôt, il recommença à bien dormir. C'était un problème de conscience, pas un problème de sommeil biologique, mais un problème de sommeil moral qui était sur la conscience. Et finalement, la réponse c'est quoi? Lisons-le ensemble. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, ou je t'ai avoué. Mais littéralement, c'est le verbe, c'est « je t'ai fait connaître, je te l'ai avoué mon péché, je n'ai pas caché ma faute, je n'ai pas couvert ma faute. » Tu sais, Dieu va couvrir ta faute plus haut, mais là ici, c'est moi, je n'ai pas couvert ma faute. Moi, c'est pour l'effacer, c'est pour pas l'assumer. J'ai dit « j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Donc, Le résultat, c'est le bonheur qu'il a vécu. La résistance, ça a été le malheur, ça a été la douleur physique et émotionnelle. Et finalement, il répond par la confession. Et c'est intéressant, dans le Nouveau Testament, il y a cette traduction que je trouve intéressante. Vous connaissez bien le texte de 1 Jean. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Hein? Le mot confesser, là, ici, là, avouer mon tort, c'est le mot duquel on l'a homologué. Homologué. C'est-à-dire de confesser, d'avouer. Et de là est venu notre terme du grec, en français, d'homologuer quelque chose. C'est-à-dire de faire enregistrer quelque chose sous preuve, sous témoin, pour faire homologuer quelque chose comme étant m'appartenant ou comme étant l'inventeur de quelque chose. Ça vient de cette idée-là de confesser. D'homologuer, de certifier quelque chose comme vrai, d'authentique, de le reconnaître. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et c'est ce qu'il nous donne comme réponse ici. La confession. Et quel soulagement! Il dit ceci dans le psaume 51, justement. « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. J'ai confessé, j'ai fait connaître ma faute. J'ai tombé à genoux, j'ai tout dit, j'ai rien caché. J'ai pas assez de minimiser, j'ai pas assez de blâmer quelqu'un. » Parce que c'est souvent ça qui nous empêche aussi de confesser. Tant qu'on a quelqu'un d'autre qu'on peut blâmer, ou mettre une partie du blâme, ou la première étape de l'erreur. Oh, mais si lui avait pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Ou si elle, ou si... Mais tant qu'il y a des si, il n'y aura pas de pleine repentance d'assumer le mal que j'ai fait sans excuse. C'est ce qui nous empêche dans nos couples, dans nos familles, de régler nos torts. On regarde ce que les autres ont fait qui aurait pu aider. Et là, pendant ce temps-là, c'est de la distraction pour ne pas regarder à moi ce que j'ai fait. C'est triste, mais on est comme ça, l'être humain. On est tellement tordu dans notre nature pécheresse qu'on cherche toujours des échappatoires. Et je ne suis pas en train de nous culpabiliser. C'est juste un constat. On est comme ça. On cherche des échappatoires plutôt que d'être pris avec soi-même. Puis ce qu'on a fait de mal, puis devoir avoir aucune excuse et devoir dire, j'ai péché contre toi et contre toi seul. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse. C'est comme ça. Pardon, Seigneur. Mais quel soulagement. En novembre 96, un homme qui, pendant 23 ans, avait réussi à échapper à la justice, avait été enfin arrêté. Sa longue fuite, avait commencé lorsqu'il avait disparu pour éviter de servir une sentence de 2 ans pour détournement de fonds. Entre-temps, l'homme a fait des millions de dollars, apparemment de façon légale aussi, mais il pouvait pas en profiter parce qu'il était en train de se cacher. Mais il ne pouvait jamais l'utiliser, son vrai nom, ni rester longtemps à un même endroit. Et après son arrestation, son avocat a dit ceci. Si on peut se réjouir d'être arrêté, je sais qu'il est content que tout cela va maintenant faire partie de son passé. Le soulagement d'être enfin libéré, de tenter de cacher mes péchés, de vivre dans le mensonge. Parce qu'on s'inflige du mal pendant ce temps-là, n'est-ce pas? Et là, il faut continuer à couvrir. On peut pas profiter de ce qu'on a parce qu'on est torturé et pris dans quelque chose qui nous siphonne, qui nous absorbe complètement. Tant qu'on n'est pas libéré complètement de nos cachettes, de nos mensonges, c'est un soulagement d'être découvert et de pouvoir retrouver la liberté d'être qui je suis, sans cachette, sans tenter de me paraître plus beau, plus belle que je suis. La liberté de la confession. Juste vous rappeler ici dans le verset 5, les mots utilisés pour le pardon. Remarquez bien, les trois verbes qu'on a utilisés au verset 1 et 2 se retrouvent ici, tout comme les mots aussi pour parler du mal. Et voici ce que ça touche effectivement, ces trois mots-là. L'idée de pardonner, couvrir, d'imputer. Le pardon est l'idée d'enlever. Et nous le voyons dans Lévitique chapitre 16. Lorsque les Juifs pratiquaient la fête où ce qu'on envoyait dans le désert, un agneau d'expiation. On mettait nos mains dessus, on imposait et on y donnait comme le sens de prendre nos fautes. Et là, il était envoyé dans le désert pour éloigner, enlever de nous les péchés. Il y a une de ces images-là qui fait partie de ça. L'idée d'imputer la justice, le compter, c'est un terme financier qu'on a parlé tantôt, un terme comptable. Et que Paul nous dit dans Romains chapitre 4 que Jésus a réglé ce problème-là précis. Et donc, on n'a plus à s'en faire avec. Et en plus, dans tout ce récit de la nativité, il y a Jean chapitre 1. Rappelez-vous Jean chapitre 1, dans le premier chapitre, il y a une autre vérité au tout début du ministère de Jésus qui est déclarée, qui est vraiment importante. Jean chapitre 1, verset 29. Qu'est-ce que ça dit? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Dans ces versets qu'on vient de lire, exprime exactement le même mot dans le Nouveau Testament. Il ôte les péchés du monde. Il n'avait pas encore enlevé. Pourquoi? Pourtant, il dit, lève-le l'agneau. L'agneau qu'on attendait qui partirait avec nos péchés, qui ferait disparaître, comme justement les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Le voici, l'agneau, qui prend nos fautes et qui lui va partir avec et les faire disparaître. Voilà de quoi le psaume nous parle. Maintenant, la recommandation. C'est bien beau tout ça, mais là maintenant, après avoir vécu l'expérience, bien, il nous fait la recommandation. C'est ainsi que tout fidèle peut prier au moment convenable. C'est quel moment convenable? C'est au moment où que tu l'entends ces mêmes paroles-là. C'est le temps. C'est le temps. Au moment où que je suis confronté, au moment où que je vis une culpabilité, au moment où que quelqu'un me le rappelle, au moment où que j'entends un sermon qui me parle de ça, au moment où que Dieu me met une pression dessus, c'est le moment convenable. Et Paul va dire, le moment convenable, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Là. Quand tu as le souffle de vie, que tu peux prendre une décision, c'est le temps. C'est le moment convenable. Le moment opportun. Et c'est le temps de faire quoi? Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Si tu as tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Il est en train de dire ici, réponds. Moi, je l'ai expérimenté dans les versets 1 à 5. Voici ce que j'ai vécu. Je t'invite à répondre. C'est la conclusion naturelle. Les 6 derniers versets sont la conclusion naturelle. Voici mon expérience. Voici comment je vous invite à interagir. Répondez. C'est le temps. Confessez maintenant. Pourquoi ne pas faire de Noël 2023 une journée mémorable en disant, aujourd'hui, cette journée-là, j'ai pris une décision de me débarrasser de tel péché que je cachais. J'ai demandé pardon à telle personne. J'ai réconcilié une relation qui était brisée depuis tellement d'années avec telle personne. L'été dernier, j'apportais un message à la fin de la semaine au Camp Patmos sur ce texte-là, en conclusion d'une série de messages dans les psaumes. Et deux mois plus tard, un frère m'a partagé que le même soir, une personne était en visite dans la salle et a entendu la prédication. Et le même soir, il est allé régler avec une personne avec qui il était en conflit depuis 10 ans. Une chicane d'église. Il a réalisé que ça faisait assez longtemps. Et il est allé voir la personne le même soir dans la salle et il est allé régler avec et demander pardon. Maintenant est le temps. Pendant que j'ai encore le souffle, pendant que je peux encore. Et il dit, faites-en pas, Dieu est un abri, il est ton protecteur. Il est ton endroit où tu peux être caché puis protégé. Dans tout ça, malgré toutes les craintes que tu peux avoir d'être découvert, la peur de finalement vivre des conséquences, oui, mais tu vas être protégé. Tu n'es pas tout seul lorsque tu décides par la foi d'obéir. Ça parle des épreuves, évidemment, des conséquences qu'il peut y avoir autour et pourtant qui ne vont pas te submerger parce que Dieu ne te laissera pas tout seul là-dedans. Et dans le verset 8, bien, il nous donne la résistance encore. Il dit, fais pas comme le cheval, comme le mulet entêté, qu'on doit brider, puis là, il met un mort dans la bouche pour l'obliger de tourner à droite, l'obliger de tourner à gauche, parce qu'il est têtu. Hein, vous connaissez l'expression, têtu comme un mulet. Hein? On n'attribue généralement pas beaucoup d'intelligence à un mulet. Surtout avec le son de sa voix. C'est plus une insulte, n'est-ce pas? Je ferai pas le son de la voix. Je sais que vous aviez le goût que je le fasse, mais je le ferai pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont pensé, là. Fait que pour vous confesser, je le dis d'avance, là. Je le ferai pas. C'est pas chic, hein? Déjà qu'on trouve que d'être un agneau, d'être une brebis, puis le son d'une brebis, ça fait pas brillant. On dit, ben, soyez pas entêté comme un cheval entêté qui veut pas rien savoir puis qu'il faut qu'on tire sur le mort. Ça, il fait mal dans la bouche. Il faut lui mettre un barreau dans la bouche pour donner de la direction pour qu'il écoute. Soyez pas comme ça. Arrêtez de résister. Tous ceux qui écoutent ce psaume, David, arrêtez de résister. Et le mot utilisé pour instruire au verset 8, qui est lié avec le mot d'introduction, c'est le mot qu'on retrouve dans le psaume, le verbe qu'on retrouve dans le psaume 2, verset 10. Vous pouvez peut-être le prendre en note. Il dit au roi des nations, recevez l'instruction de Dieu. Et le mot utilisé, c'est le mot qu'on utiliserait pour parler d'éduquer les enfants. C'est le mot qu'on utiliserait dans les proverbes, comme un père et une mère dans les proverbes hein, qui enseignent leur fils. Reçois l'instruction, mon fils. C'est le même terme proverbial qu'on retrouve dans les proverbes. Ça peut être pour un roi condescendant de se faire dire, sois enseigné comme un enfant devrait être enseigné par Dieu, par le roi des rois. Et là, il dit, recevez l'instruction, soyez enseignable. C'est ça qu'il dit au verset 8, soyez enseignable. Parce que quand on est pécheur, on n'est pas enseignable, on trouve des moyens tortueux pour expliquer ce qu'on a fait de mal, pour blâmer quelqu'un, pour distraire, pour deflect, puis changer de sujet, mais on n'est pas enseignable. Il dit, recevez l'instruction. Sois, il utilise trois différents termes pour l'idée de, veux-tu accueillir ce que je suis en train de te dire, espèce de tête de cochon? C'est ma version québécoise, OK? Parce que c'est ça que tu dis à un mulet, n'est-ce pas? Et c'est de nous qu'il parle. Content à être un peu comme des mulets. N'est-ce pas? Quand on est bien honnête. Il dit, résistez pas, ça vaut pas la peine, ça fait juste mal. Mais faites comme le fils prodigue. Hein? Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est éloigné. À un moment donné, il est rentré en lui-même. Il s'est raisonné, il s'est parlé. Il a reçu l'instruction de Dieu. Il s'est dit, voyons, je suis bien niaiseux de faire tout ça. Je me donne de la misère. Je veux juste reconnaître que j'ai péché contre Dieu. Je vais aller voir mon père, je dis, j'ai péché contre toi, puis il advienne que pourra. Et c'est ce qu'il fait. Mais après avoir été entêté, puis avoir résisté pendant un bout de temps, puis d'être en train de finalement d'être rendu tellement bas qu'il est en train de regarder la bouffe du cochon, puis qu'il avait le goût de prendre la bouffe du cochon. Ça va pas bien quand t'es là. Est-ce que t'es là ce matin? En train de contempler de la bouffe de cochon, puis de penser que ça a de l'air bon tellement que t'es désespéré? En train de regarder des péchés qui sont dégueux, puis des convoités tellement que tu es au bout, épris dans le péché, culpabilisé, et bas, que des choses pas belles que tu es en train de convoiter. Et il dit, arrête de résister. Et le résultat, et regardez bien là, on a parlé du résultat au début, il revient sur le résultat. C'est quoi le résultat? Le pardon, la joie. Le pardon et la joie sont le résultat qui sont revenus ici à la toute fin et nous le ramènent. Et j'aimerais vous le lire. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel, on revient ici à la foi, est environné de sa grâce. C'est-à-dire de quelque chose qu'on ne mérite pas, de sa bonté généreuse. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit maintenant parce que vous êtes connectés à Dieu. J'aimerais vous lire ce verset de Ésaïe 53. Écoutez bien ceci. Ésaïe 53, versets 3 et 4. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur ici, c'est le même mot. C'est-à-dire l'homme de douleur, il parle des douleurs humaines du fait d'être pécheur. Jésus est devenu homme de douleur pour nous. Habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, qu'on regarde même pas tellement qu'il est dégueu. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, ce badant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs, même mot encore une fois. Dans les deux versets, c'est le même mot, et c'est le même mot ici, il parle des douleurs. Ça, c'est les conséquences du péché. C'est le mal que je fais aux autres. C'est ma culpabilité. C'est ma condamnation. C'est le fait de vivre sur terre avec dans un monde qui est imparfait et qui, là, maintenant, on inflige du mal les uns aux autres, les conséquences du quotidien, les conséquences de mes actes. C'est ça qui parle des douleurs de l'être pécheur. C'est de nos douleurs. C'est de mes conséquences, de mes fautes. C'est de mon environnement difficile que j'ai causé et que d'autres me causent qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Il a de l'air frappé, il a de l'air humilié par Dieu, cet homme-là. C'est comme ça qu'on a regardé Jésus. Et pourtant, le mépris qu'on avait, c'était parce qu'il portait ce que vous et moi, on mérite. C'est pour ça qu'il est venu, à travers la naissance d'une femme vierge. C'est pour ça que Dieu le Père s'est incarné dans le Fils Jésus sur terre, pour marcher parmi nous. et pour venir donner de l'espoir. Que dire ce matin? J'aimerais vous laisser avec deux versets. Prenez bien en note ces deux versets. Et c'est les paroles de Jésus sur la nécessité du pardon. Et lorsque vous êtes debout pour prier, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que le Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et c'est repris de Matthieu chapitre 6. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est vraiment essentiel pour nous le pardon. C'est pas un luxe. Il dit, pardonnez-vous parce que moi je vous ai pardonné. Tout l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit à Israël? Soyez gentils avec vos voisins puis avec l'immigrant qui vient chez nous parce que moi j'ai pris soin de vous, j'ai été gentil avec vous quand vous étiez des immigrants en Égypte. Soyez gentils et accommodants et pardonnez les autres parce que moi je vous ai pardonné puis je vous ai libéré de l'Égypte. Il ramène toujours à l'expérience de l'Égypte, de leur rédemption de l'Égypte pour leur dire comment ils doivent se comporter avec les autres et dans un esprit de reconnaissance. Pourquoi je devrais pardonner les autres? Parce que moi je méritais pas d'être pardonné puis lui me pardonner. Et parce que là, parce qu'il m'a pardonné, j'ai maintenant la force possible, qui était impossible pour moi de pardonner quelqu'un d'autre. Mais si tu pardonnes pas, ça dit peut-être quelque chose sur ton lien de pardon avec Dieu. Est-ce que j'ai compris que j'étais pardonné? Je suis plus obligé de vivre comme ça. Puis que c'est lui qui m'accorde la possibilité de pardonner les autres. Par moi-même, j'y arriverai pas. J'ai besoin de son pardon pour pardonner. Je peux parler de la réconciliation aux autres. Pourquoi? Parce que j'ai été réconcilié moi-même. Sinon, je ne peux pas parler de vraie réconciliation avec les autres si je ne l'ai pas vécu moi-même. Parce que je ne sais pas dans le fond de mon cœur ce que c'est vraiment de vivre ça. Et Jésus en parle parce que c'est un besoin pour nous. Ce n'est pas un luxe, le pardon. Entre moi et Dieu et entre moi et les autres. Et peut-être ce matin, c'est ce que Dieu veut te donner pour Noël. Par un don, pardon. D'être libéré de rancune, de honte, de lourdeur dans ta vie. Continue pas ainsi. Et le deuxième passage, et celui-ci, c'est l'apôtre Pierre qui parle à des gens qui réalisent le mal qu'ils ont fait. Après avoir entendu le discours, ils eurent un cœur vivement touché. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cœur vivement touché? Mais voici ce que Pierre dit. Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude. Et ça, c'est le mot convertissez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce matin, peut-être tu n'as jamais encore vraiment pleinement saisi ce que Jésus est venu faire sur terre, ce petit bébé dans une crèche tout innocent, ces belles histoires. Peut-être tu n'as jamais encore saisi, ou peut-être tu le sais dans ta tête, mais tu ne l'as jamais pris pour toi personnellement. Et Noël 2023 peut devenir le jour où tout a changé dans ta vie. Où ce que tu arrêtes de reporter une décision que tu dois prendre maintenant. Une décision qui n'est pas un luxe, mais qui est une nécessité dans ta vie. Une décision dont Dieu te donne un impératif. Repens-toi! Tu sais pas ce que demain. Pourquoi ne pas prendre cette décision aujourd'hui? D'arrêter de reporter à demain alors que tu n'as aucune garantie de demain de toute façon. Quelle arrogance de notre part! D'avancer avec assurance que demain va venir. Il n'y a personne qui a cette garantie-là. Personne! Entre ici et Noël, vous savez qu'il y a des milliers de personnes vont mourir. Ici, dans le pays. Certains qui le savent parce qu'ils ont le cancer, qui s'y préparent. D'autres que c'est une surprise totale. Personne n'a de contrôle là-dessus. Mais aujourd'hui est le jour favorable pour prendre une décision alors qu'on a le souffle de vie. Pour régler nos comptes avec Dieu, comme pour régler nos comptes avec quelqu'un d'autre. J'aimerais vous inviter à la prière ce matin. On va terminer ici. J'ai invité l'équipe de louanges à venir. J'aimerais qu'on juste prenne un petit instant de prière ensemble. Et que si le Seigneur vous touche, les amis, surtout ne résistez pas. Si le Seigneur est en train de titiller sur quelque chose, il y a quelque chose qui fait un pop-up depuis tantôt, là. Tu le sais entre toi et Dieu, ce que Dieu est en train de ramener comme pop-up. Vous savez, ces petites affaires-là sur ton écran des fois, puis toum, toum, qui revient, puis là, t'es comme en train de l'enlever, puis c'est fatigant, là. Là, c'est pas une pub à enlever, là. C'est pas une pub qu'il faut que tu attendes le premier 30 secondes pour l'enlever puis en passer à d'autres choses. Non, c'est la conscience que Dieu permet de te ramener un pop-up de quelque chose qu'il veut que tu règles ce matin, qui dit « Arrête de reporter. C'est pas Noël pour que tu t'engourdisses, pour que tu boives, que tu aies pris dans de la grosse nourriture, puis des parties, et oublier ton mal de vivre. C'est le temps de régler les choses. Fermons nos yeux et parlons à Dieu. Seigneur, c'est devant toi qu'on se place ce matin. Reconnaissant pour ta parole, reconnaissant pour cette fête de Noël qui nous rappelle le fait le plus important de l'histoire humaine. Dieu fait homme. Et on veut à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières souligner cette fête avec dignité, avec fierté, avec énergie, et que dans nos foyers, Seigneur, on se rappelle la vraie raison d'être de cette fête. Et combien elle est chère à nos cœurs. Et notre propre expérience d'avoir rencontré Jésus, d'avoir connu Jésus, d'avoir vécu son pardon un jour. Et qu'on veut le partager. Le partager à nos enfants, le partager à nos proches. Et Seigneur, en se rappelant le vrai sens, Seigneur, on te remercie pour le témoignage de David. En ce temps de Noël, qu'on se rappelle ce que David a vécu un jour. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire, Seigneur, ce matin? C'est quoi les portes de nos cœurs, Seigneur, ce matin, que tu cognes? Que tu t'invites, mais que tu forces pas la porte. Que tu cognes pour mettre une saine pression, mais que tu enfonces pas la porte, Seigneur. Que tu invites, mais sans obligation. Tu dis, laisse-moi entrer, je veux t'aider. Laisse-moi entrer, je veux t'aider à régler ce que tu n'arriveras pas tout seul. Non, arrête de donner des excuses. Arrête de reporter. Arrête de trouver des moyens pour t'en sortir. Fais-moi confiance. Si je mets ça sur ton cœur, c'est parce que je veux que tu le règles. Accorde-nous, accorde-moi, Seigneur, le courage de confesser ce matin, de régler mes comptes et de demander pardon, Seigneur. À qui de droit? De te demander pardon à toi, Seigneur, premièrement. Et de dire merci de m'offrir le pardon sans mérite. Merci de permettre que c'est possible pour moi d'avoir l'espérance de tout mettre ça derrière moi, mais pas en me mettant la tête dans le sable, mais en me sortant de la tête dans le sable et en me tournant les yeux vers Jésus. Je veux me tourner, Seigneur, ce matin vers ton Fils Jésus, te dire merci d'être venu sur terre, d'avoir osé, ô Dieu Tout-Puissant, de prendre un corps aussi fragile que le mien, d'être venu marcher dans mes problèmes, de les avoir côtoyés, de les avoir vus, goûtés, ressentis les conséquences humaines. Et malgré tout, tu as été au bout, tu es mort pour moi. Et je veux te dire merci. Je veux te célébrer, je veux être fier de toi, Seigneur. Et je te prie encore une fois ce matin d'accueillir ma confession. Je te demande pardon, Seigneur. Merci de me pardonner. Merci de toujours avoir l'oreille tendue vers moi. Les bras toujours prêts à m'accueillir comme le bon Père du Fils prodigue. C'est toi, ô Père céleste, qui est toujours prêt à m'accueillir. Toujours heureux de reprendre un fils, une fille qui s'est éloignée. Merci de cette espérance. Et nous te prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous aimeriez avoir de l'accompagnement ce matin, comme pasteur, on est toujours disponible. Venez nous voir, on prendra le temps qu'il faut pour vous écouter, pour prier pour vous, vous encourager dans ce que vous vivez. Mais surtout, ne repartez pas de ce lieu sans avoir réglé vos comptes avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps des fêtes, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa force, qu'il vous accorde aussi beaucoup de discernement avec les opportunités familiales qu'on va avoir dans ce temps des fêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.